Voilà, bien comme promis, nous sommes en Mongolie avec Éric Massé, donc qui est président d'une association qui s'appelle Guillaume Rubruck. Bonjour, monsieur Massé.
Bonjour.
Donc heureux de vous accueillir pour ce beau voyage que vous nous proposez. J'ai vu un petit peu votre site internet, je suis allé faire un petit tour dessus. J'étais très étonné que finalement il y a des rapprochements entre la région et la Mongolie, puisque c'est le début d'une aventure déjà assez vieille qui a marqué un petit peu la fondation de cette association.
Oui, alors je sais pas si elle est effect... le tout début, c'était il y a 8 siècles, hein,
Voilà, c'est ce que j'allais dire, oui.
avec le voyage de Guillaume de Rubruck dans l'Empire mongol, envoyé en mission par le roi de France de l'époque, Saint-Louis, en ambassade, et qui a, après un voyage de 2 ans à travers l'Empire, nous a ramené un récit de voyage qui est un chef-d'œuvre de la littérature du Moyen-Âge.
C'est quand même une aventure assez fabuleuse qu'il a vécue, parce que bon, maintenant ça paraît assez facile d'aller en Mongolie, quoique, mais à l'époque c'était quand même une prise de risque et puis un univers complètement étonnant à découvrir, quoi.
Oui, alors, donc d'abord, effectivement, c'était un univers inconnu. Hein, il y avait
C'était
de.
sur la carte quand même?
Bah, écoutez, il faut voir les cartes de l'époque. Hein, on imaginait l'univers circulaire
Mais
avec
ouais.
un océan autour, avec la mer Caspienne qui était un golfe de cet océan circulaire. C'est très difficile de trouver la Mongolie sur les cartes de l'époque.
Comment il y est allé là-bas en fait?
Alors, bon, avec les moyens de l'époque, hein, c'était à pied la plupart du temps, quelquefois à cheval, alors pieds nus parce que c'était la règle de son
Oh.
ordre, c'était
Eh bien,
un
dis
frère
donc.
franciscain.
Et donc, combien de temps pour aller là-bas?
Donc 2 ans, le voyage a duré
Deux
deux
ans.
ans, sachant qu'il est resté un peu plus de 3 mois à Karakorum, la capitale.
Et donc, évidemment, là, il s'y était quand même préparé à aller là-bas. Il avait déjà eu une petite notion, des contacts. Comment ça s'est passé, la préparation de ce voyage?
Non, alors en fait, Guillaume, on sait très peu de choses de lui. Hein. Il a, contrairement à Marco Polo, par exemple, qui arrive 50 ans plus tard, mais Guillaume, il a reçu une mission, il l'a remplie, il en a rendu compte. Et il se trouve que le récit qu'il en a fait est extrêmement intéressant, mais on sait très peu de choses sur son histoire propre.
Alors, ce récit, il est écrit quelque part?
Alors, il a été écrit au roi de France. Et on n'a pas l'original, mais on a des. Parce que bon, il a été tout de suite étudié, par exemple, par Roger Bacon, qui a rencontré Guillaume à son retour et qui a utilisé son récit. Et par conséquent, sa lettre au roi a été recopiée souvent. Et on a des copies très, très proches, quoi, de l'original qui sont conservées à Cambridge, en Angleterre.
Donc, ce qui était écrit, c'était la réalité quotidienne de la Mongolie de l'époque, ou bien c'était un peu transformé? C'est comme un reporter, en fait, sa mission, ou plus, ou c'est une mission de missionnaire, entre guillemets, de l'Église?
Alors, officiellement, il était chargé d'évangéliser les peuples, de demander l'autorisation. Il devait demander l'autorisation à l'empereur mongol de rester sur place pour évangéliser les peuples conquis.
Et ils étaient d'accord, les rois mongols ou...
Alors, en fait, les empereurs mongols étaient très tolérants, hein, vis-à-vis de toutes les religions. La religion musulmane était représentée à la cour de l'empereur, les bouddhistes aussi, que Guillaume a rencontrés. Les chrétiens étaient déjà nombreux dans l'Empire parce que c'était les Nestoriens qui avaient été déclarés hérétiques au 3e siècle et qui étaient partis vers l'Est, s'est réfugiés vers l'Est et qui avaient développé des églises qui ont duré très longtemps, qui ont été puissantes à certains moments.
Donc l'issue en fait des guerres de religion en même temps, hein, une sorte de guerre de religion fratricide.
Alors, chez les chrétiens, oui, dans les premiers siècles, hein, oui.
Donc voilà comment des, je vais pas dire des sectes, hein, mais des pans entiers de l'Église deviennent autonomes en quelque sorte, enfin qui prennent du large en tout cas.
Voilà, et alors. Les Mongols donc toléraient toutes ces religions et il y a même eu un épisode qui est relaté par Guillaume au cours duquel l'empereur a invité des représentants de toutes ces religions à une espèce de joute oratoire pour défendre leurs idées qui s'est faite en public. Et alors, effectivement, c'est, alors je dirais pas reportage. En fait, il se trouve que Guillaume a, pour l'époque, a un point de vue très étonnant. Il observe la réalité de manière très réaliste et très humaine aussi. Et il arrive à nous la décrire de telle façon que, voilà, on peut considérer que c'est un des premiers ethnologues. C'est le premier ethnologue sans doute de l'histoire.
Alors, la Mongolie, telle qu'on l'imagine à l'époque, elle était déjà très grande. Maintenant, elle est, on peut dire, séparée en deux. Il y a la Mongolie chinoise et la Mongolie extérieure, enfin, la Mongolie, le pays de la Mongolie, c'est ça?
Effectivement. Alors à l'époque, elle était très très grande puisque c'était le plus grand empire de tous les temps, hein,
Ah oui, quand
de
même.
la Corée jusqu'à l'Ukraine d'aujourd'hui.
Bon.
Il n'y a jamais eu un empire plus important. Il s'est étendu un petit peu par la suite avec Kubilai qui a envahi la Chine. Aujourd'hui, effectivement, la Mongolie est revenue à des dimensions, ses dimensions initiales, on va dire, et elle est séparée en deux, au moins en deux, en fait, hein. Il y a des Mongols en Russie, il y a des Mongols dans la République de Mongolie, la Mongolie proprement dite, et puis il y a des Mongols encore plus nombreux, en fait, en Mongolie intérieure, ce qu'on appelle la Mongolie intérieure, qui est en Chine.
D'accord. Donc, à l'époque, on imagine que l'empereur a été très puissant. Est-ce qu'on peut donner quelques noms d'empereurs qui sont restés un peu dans l'histoire?
Bon, alors le premier de tous, c'est Gengis Khan, bien sûr, hein, que tout le monde connaît. Ogodai, peut-être, son successeur, qui a considérablement encore agrandi l'empire conquis par Gengis Khan, qui l'a stabilisé plutôt, parce que les Mongols, au début, envahissaient un pays, prélevaient un tribut, demandaient, obligeaient le roi ou l'empereur en place à promettre un tribut régulier, par exemple, puis rentrer chez eux, et jusqu'à ce que
C'était du pillage un peu, non?
c'était un peu du pillage, oui. Jusqu'à ce qu'ils constatent que le tribut n'arrivant plus, il fallait retourner
Ben, je pense que, par exemple, tout le problème des peuples qui ont essayé de s'emparer du pouvoir chinois, par exemple, c'est une fois qu'ils sont sur place, ils savent plus trop quoi faire, comment irriguer l'ensemble du pays, quoi. Ils sont un peu coupés de leur base.
Oui, alors en tout cas, les Mongols, ils ont été confrontés effectivement à des difficultés. Soit ils rentraient chez eux après la conquête, et ça donnait, il fallait revenir très, très rapidement ensuite. Et soit, comme Kubilai, en fait, ce qui est arrivé, c'est que Kubilai a déplacé le centre de l'empire en Chine, et que l'empire mongol est devenu l'empire chinois, tout
Bien sûr,
simplement,
hein.
quoi.
Ou réciproquement.
Voilà.
Enfin, je veux dire,
Ils ont
il y
été
a une force
absorbés, quoi.
d'absorption de la
Voilà.
Chine qui est, par rapport à son énormité, bien sûr, qui est une force d'attraction et qui broie tout.
Les Mongols l'ont reproché à Kubilai, quoi.
Ouais, effectivement, c'est un peu comme notre Napoléon, hein. C'est parfois aller au-delà de ce qui est raisonnable, peut-être aussi, hein. Et
Certainement.
d'autres ont fait les mêmes erreurs. C'est curieux que dans l'histoire, on retrouve toujours le même type d'erreur.
Écoutez, effectivement, pour
L'homme
ceux
ne
qui sont.
retient pas les leçons.
En tout cas, la soif de pouvoir, à mon avis, doit.
Ou l'intérêt personnel.
Ou l'intérêt personnel. En fait, les Mongols, au départ, c'était pas forcément le pouvoir, hein, qu'ils recherchaient. Ce qui se dit toujours, c'est qu'au départ, ils recherchaient tout simplement de nouveaux pâturages et des pâturages plus grands, quoi, pour leurs troupeaux, quoi.
Oui, parce qu'en fait, les troupeaux étaient nomades, on peut dire, à l'époque.
Ah oui, et encore
Et
aujourd'hui,
encore
hein,
aujourd'hui, oui.
oui.
Donc, effectivement, il fallait qu'ils changent de terre. J'allais dire, changement de terre réjouit les veaux. C'est pas nouveau non plus, ça. Hein. Donc, effectivement, ces gens des grands espaces, maintenant, ils vivent encore comme ça, de façon nomade, hein, en Mongolie?
Donc en Mongolie, en République de Mongolie, il y a encore environ un tiers des habitants qui vivent la même vie qu'il y a 1000 ans et qui sont donc des éleveurs nomades. Oui,
Donc on élève surtout des moutons, des...
Ah, il y a des moutons, des chèvres, des chevaux, hein, c'est le pays du
Oui, les chevaux
cheval,
aussi, oui.
des chameaux, des yaks, des buffles, j'en oublie peut-être. Il y a aussi des rennes dans le nord de la Mongolie.
Alors, l'habitat en Mongolie, il est en tente encore, les yourtes ou je sais pas quoi, non?
Oui, alors là, il y a plus du tiers des habitants qui vivent encore sous yourte, parce que moi, je pense que encore la majorité peut-être des habitants des villes, des Mongols qui se sont sédentarisés, bah, il faut mettre des guillemets à sédentariser parce
D'accord.
qu'ils sont venus avec leur yourte et je pense qu'ils sont prêts. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs, il y a déjà eu des mouvements d'aller-retour, hein, une partie de la population qui était venue, qui avait été sédentarisée à Oulan-Bator, qui est repartie en essayant de se relancer dans l'élevage.
Alors, très, très curieusement, au XXIe siècle, il y a des associations qui proposent aux gens de revivre un peu dans des yourtes, un peu comme là-bas, hein, et pour dire reprenez contact avec la nature, on va vous installer un camp, vous vivrez sainement ou autrement.
Alors, bon, la yourte, je crois que c'est le symbole de la. C'est vraiment ce qui symbolise le mieux la Mongolie, hein, et le mode de vie des Mongols. C'est une forme d'habitat qui est, alors évidemment, extrêmement bien adaptée à leur mode de vie, au mode de vie nomade, et puis au climat extrême qui règne en Mongolie. Mais il y a un côté aussi, comment dire, d'abord il y a beaucoup de symboles dans la yourte, et puis il y a un côté, le côté rond comme ça, qui est, comment dire, qui donne une impression particulière lorsqu'on y vit, je crois.
Alors, parfois, on a toujours un peu peur quand on voit des gens qui se prétendent écolos, mais de cette façon-là, de tomber sur des gourous, des sectes, c'est pas le cas pour ces vendeurs de yourtes.
Alors en fait, je connais beaucoup de gens qui vendent des yourtes, mais non, je ne connais pas qui
Bon,
soient.
tout va bien
Il
alors.
y en a peut-être, hein, mais. Ouais.
Bon. Alors, est-ce qu'il y a des associations à recommander, par exemple, par contre?
Parmi celles qui vendent des yourtes?
Ou qui louent des services qui
Ouais.
correspondent à vivre un peu ailleurs dans
Oui, enfin, nous, on a des Alors que dire? Il y a beaucoup d'associations qui s'intéressent à la Mongolie, qui travaillent avec la Mongolie, parce que c'est un pays fascinant. Tous les gens qui, enfin, faut y aller, et tous les gens qui y vont reviennent éblouis, veulent y retourner et veulent maintenir des liens avec les gens qu'ils y ont rencontrés. Et bon, donc souvent, une possibilité pour maintenir ces liens, c'est de se lancer dans des activités du genre
Bien sûr.
de celle-ci, importation de yourtes, des choses comme ça. Donc on connaît beaucoup de gens qui en vendent. Il y a une personne qui sera présente beaucoup la semaine prochaine, qui est déjà présente à Mons-en-Barœul en ce moment, qui s'appelle Ulzi, qui est une Mongole installée en Bretagne depuis pas mal de temps. Et alors qui, pour ce qui est des yourtes, par exemple, elle vend des yourtes, des très très belles yourtes, sculptées par des artisans qui mettent le temps. Bon, voilà, c'est une chose. Hein. Alors bon, moi je recommande beaucoup. Les yurts,
Mettre ça dans son jardin, vous croyez que c'est raisonnable?
Oui, alors donc ça se fait beaucoup, hein, même sous nos climats. Nous, on en a une à Rubruck depuis très longtemps. On prend la précaution de la rentrer pendant les mois d'hiver les plus pluvieux, parce que bon, voilà, puis en plus on n'a pas beaucoup de visiteurs en hiver, donc on n'a pas de raison de la garder. Mais il y a des gens qui l'ont, voilà, elle est plantée toute l'année. Il faut faire un peu de feu de temps en temps dedans, quoi, hein, pour
D'accord.
que.
L'hiver, on peut mettre combien de personnes, enfin l'hiver ou l'été d'ailleurs, combien de personnes dans cet abri et en même temps où on met le feu, donc cette espèce de foyer?
Oui. Bah, donc une famille mongole, d'abord elles sont souvent nombreuses, les familles mongoles, hein, c'est un pays où il y a beaucoup d'enfants.
Par nécessité, parce qu'il y a beaucoup de décès aussi infantiles, non?
Alors, bon, la mortalité infantile n'était pas énorme, hein. C'était un pays qui était sous la dépendance de l'Union soviétique, hein, à l'époque communiste. Il y avait évidemment des désavantages à cette situation, mais parallèlement, par exemple, il y a des hôpitaux, de nombreux hôpitaux sur toute la surface de tout le territoire de la Mongolie. Et il y avait une médecine qui fonctionnait, qui était pauvre, mais qui fonctionnait.
C'est plus le cas maintenant ?
Alors, disons que la transition, comme dans la plupart des anciens satellites de l'Union soviétique, la transition a été rude, hein, et le passage à l'économie de marché a appauvri considérablement les services publics. Et les Mongols, souvent, en général aussi, maintenant, ils sont en train, je crois, de s'en sortir, quoi, de sortir de l'extrême misère où certains étaient tombés, quoi.
Quel est le degré d'autonomie de la Mongolie par rapport à l'URSS, enfin à la Russie ?
La Russie, alors, disons que, en fait, l'indépendance de la Mongolie est garantie par des traités russo-chinois depuis un siècle maintenant. Sinon, c'était sous la domination mandchoue jusqu'au début du XXe siècle.
La Mandchourie, ça existe toujours ?
Alors c'est une région, hein, de la Chine, mais il y avait... je dois dire, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de la Chine.
Je ne veux pas entrer trop dans le détail, c'est pour avoir une idée un petit peu de...
Donc c'est une région de la Chine, mais il y avait un pouvoir mandchou. Donc cette indépendance est garantie par des traités russo-chinois, et les Russes et les Chinois ont... intérêt tous les deux à avoir ce pays, ce très grand pays pauvre de toute manière, qui sert un peu de tampon entre
les
deux.
Et puis d'endroits où on produit des choses à manger aussi, non ?
Alors bon. La Mongolie exporte, bien sûr. Ouais.
Là, actuellement, il y a quand même un vrai problème mondial par rapport à l'alimentation. Je pense que la Mongolie doit être observée avec des yeux gourmands.
Oui, alors je ne sais pas si c'est pour l'alimentation qu'on l'observe avec les yeux les plus gourmands, parce qu'il y a aussi il y a un sous-sol très riche, avec de l'uranium, de l'or, enfin des tas de choses qui intéressent aussi beaucoup.
D'accord, donc on ne veut pas trop le dire, parce que ça va faire des envieux. Très bien, donc tout cela, ça nous ramène donc dans les Flandres. Alors dans les Flandres, donc pour préciser qu'il y aura la semaine de la Mongolie qui a démarré, enfin il y a vraiment une semaine spécifique jusqu'au 27 avril qui démarre le 18 jusqu'au 27 avril. Et là donc la ville concernée s'appelle l'endroit où ça se trouve cette semaine.
Alors en fait la semaine elle s'étend sur toute la Flandre, hein, ouais. Il y aura des manifestations sur l'ensemble de la Flandre. Donc de Dunkerque à Mont-Saint-Barreul, à Lille,
à Tamanrasset, non ?
Non, à Courtrai en Belgique, Courtrai, pour les grandes villes, et puis sur la Flandre intérieure, dans de nombreux bourgs et villages de la Flandre intérieure. Je sais pas si je dois les citer tous.
Vous allez en oublier, vous allez vous fâcher avec
voilà.
Des amis, donc
c'est
pas la peine. Hein. On peut retrouver un petit peu les éléments sur un site internet ?
Oui, alors là, une adresse toute simple, www.guillaumederubrouck, tout attaché.
On va quand même le dire. Guillaume normalement, DE, et Rubrouck, RUBROUCK.
Voilà, oui, c'est vrai.
.fr. Donc voilà, est-ce qu'il y a un musée Guillaume de Rubrouck ?
Oui, alors depuis 1996, il y a une maison Guillaume de Rubrouck qui a été inaugurée à l'époque par le président de la République de Mongolie en personne, qui était venu dans notre petit village de Rubrouck.
Ça, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il a été accueilli officiellement par les autorités françaises ?
Oui, il était en visite, c'était sa première visite officielle en Occident, je crois, depuis ce qu'ils appellent la démocratisation. Donc,
donc il a eu les honneurs d'un chef d'État, vraiment, quand il est arrivé ?
Oui, il a été reçu à l'Élysée, tout à fait. Hein, et puis, par ailleurs, il a été reçu aussi à Rubrouck.
Ouais. À Rubrouck, ouais. Très bien. Donc, voilà, pour en savoir plus, donc, ce site internet. Sinon, si vous aviez des conseils, dans quel état d'esprit il faut aborder cette semaine, cette quinzaine, pour les visiteurs ?
Alors, il y a une culture... la culture mongole, c'est une culture très, très riche. Très ancienne, les Mongols en sont fiers. Je crois qu'elle a survécu à beaucoup de choses, à la fois aux victoires, quand ils ont été un petit peu absorbés, mais aussi aux défaites, à l'occupation. Et en ce moment, elle est confrontée à une épreuve nouvelle, c'est l'épreuve de la mondialisation, et puis de l'économie de marché qui arrive dans le pays. C'est tout nouveau. Mais je pense que voilà, ils sont très très fiers de leur culture, ils y tiennent. Et je pense qu'elle, c'est un peuple fier de toute manière, sûrement comme tous les nomades d'ailleurs, je crois. Voilà, il faut venir découvrir cette culture.
Alors, il me semble que j'ai vu un film qui s'appelait Le chameau qui pleure. C'est un film mongol ?
C'est un film mongol, oui. Et alors, on le passe pas pendant la semaine, on passe le second film de la réalisatrice qui s'appelle L'histoire du chien jaune.
D'accord.
De Mongolie. Et on passera d'autres films aussi. Le mariage de Tuya, qui est un film réalisé chinois, mais qui se passe en Mongolie intérieure et qui décrit très très bien ce qui se passe dans les deux Mongolies intérieures.
Je l'ai vu ce film, il est magnifique.
C'est magnifique, ouais. Ouais. Mais la Mongolie est magnifique comme ça tout le temps. Les Mongols aussi.
Bon, ben, de bonnes nouvelles hein, de Mongolie. Sinon, des nouvelles de Flandre, vous en avez ?
Bien écoutez, en quel sens ?
Je ne sais pas, hein, on parle de choses qui sont loin, parfois ça masque aussi les choses qui sont près. Donc vous, comme vous êtes un habitant de cette région, n'hésitez pas si vous avez des choses à dire.
Non, bah nous on essaye, enfin nous on est dans un petit village où tous les habitants qui sont nés sur place et qui ont plus de 45 ans parlent encore leur langue natale qui est le flamand. Et donc un peu par respect par rapport à ça, on dit que c'est la semaine de la Mongolie en Flandre et puis on fait un petit peu attention à cette culture aussi qui est la culture donc des gens qui sont nés à Rubruck.
Et à quand la semaine de la Flandre en Mongolie ?
Alors, il y a des jeunes Français qui essayent des échanges comme ça. Et nous, c'est ce qu'on souhaite de toute manière. Hein. On souhaite vraiment des échanges. On souhaite donner en Mongolie, recevoir de la Mongolie, que ce soit à tous les niveaux. Et on aimerait bien ça, oui.
Alors, c'est un atelier qu'on va annoncer maintenant, qui va vous donner un peu la tendance de cette musique-là, pour vous expliquer les choses.
Pendant la semaine, il y a un groupe assez extraordinaire qui viendra nous voir. C'est un père et son fils, Tserendava et Tsordgarel, qui sont des éleveurs et qui pratiquent le chant diphonique. On a entendu un petit extrait de cette technique de chant en début d'émission.
On l'entend et encore
maintenant. À côté des concerts qu'ils donneront dans plusieurs endroits, ils vont diriger un stage. Qui permettra d'apprendre à pratiquer soi-même en quelques heures, de commencer à apprendre à pratiquer cette technique. Et ça se passe à Mons-en-Barœul le vendredi 25 avril. Et on peut réserver un numéro de téléphone que je peux donner, le 03 28 43 07 42. 03 28 43 07 42.
Merci beaucoup. Voilà, bien monsieur Akmerce, merci, au revoir.
Au revoir et merci.